La guérison des maladies, deuxième fichier. Chapitre 3. Encore une fois, dans la rue qui monte, elle avait ouvert le paquet. Elle allait très lentement pour faire durer le plaisir. Elle déroulait ce ruban, cherchant à en distinguer la couleur, mais ce n'était pas facile. Du côté de l'ombre, il faisait trop noir. De l'autre côté de la rue, c'était pour une autre raison. Drôle de lumière que celle de la lune, où tout se brouille et se confond. Est-ce qu'il était bleu, ce ruban, ou bien rouge, ou bien vert? La seule chose qu'on pouvait savoir, c'est qu'il était en soie, et il y en avait bien 2 mètres. Et, l'ayant enroulé de nouveau dans son papier, « Pour la couleur, j'attendrai à demain. » Elle remit le paquet dans sa poche. « Mon Dieu, comme tout est beau! Il semble qu'il ait deviné que je n'avais que ce chapeau, et un tout vieux vilain encore. Mais le ruban, une fois cousu dessus, on ne le reconnaîtra pas. » Dimanche, elle comptait sur ses doigts. « On est aujourd'hui lundi, ça fait 6 jours. Je passerai devant chez lui. Alors, peut-être qu'il descendra, peut-être qu'il ne descendra pas. » Mais qu'est-ce que ça fait, puisqu'on aura toute la vie pour être ensemble? De nouveau, elle s'était arrêtée. Elle avait ouvert le paquet. Bonheur de plus comme ça, quand tout dort, d'être seule avec son bonheur. On pense à ce qu'on veut, personne pour vous en empêcher. Je coudrai ce ruban autour du fond, avec un nœud, et je mettrai le nœud devant pour qu'on puisse le voir de loin. Elle s'était remise en marche. Elle n'a pas remarqué tout de suite qu'il y avait un groupe d'hommes arrêtés devant chez elle. Ils étaient 3 ou 4. Ils se tenaient penchés sur quelque chose de long qui était étendu par terre. Et l'un d'eux, maintenant, se redressait, criant « Hé, là-haut, ouvrez-nous !» Puis, comme personne ne répondait « Hé, là-haut, vous n'entendez pas, Madame Grain? Dépêchez-vous, c'est pressant !» À ce moment, Marie se mit à regarder. Au même moment, les hommes l'aperçurent. Alors, ils se retournèrent vers elle. « Tu tombes bien !» À la clarté d'un réverbère, on a vu changer sa figure. Encore une fois, en elle, tout changeait. Elle revenait en arrière. Et les hommes, d'abord, « Mais ce n'est pas elle, on a fait erreur !» Mais à présent, « Que si, c'est bien Marie !» « Qu'est-ce qui est arrivé? On ne te remettait pas. » Ils recommencèrent. « As-tu la clé ?» Elle ne bougeait toujours point. C'est ainsi qu'une fenêtre eut le temps de s'ouvrir, et une voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est votre mari qu'on vous amène. Il est tombé devant chez des costères. Il s'est fait un trou à la tête. » On répondit. « Rapportez-le seulement d'où il vient. » La fenêtre s'était refermée. Mais elle, alors, elle s'avança. Elle disait « Où est-ce qu'il a mal ?» Et quand elle vit tout ce sang, « Êtes-vous bien sûr qu'il n'est pas mort ?»« Bah, il en a vu bien d'autres. Ouvre-nous seulement, on se charge de le monter. » C'est ainsi qu'elle se trouva, finalement, assise près du lit. Il y avait sur une chaise une cuvette pleine d'eau rouge. Tout à coup, sans ouvrir les yeux, il a dit « Es-tu là ?»« Oui, père. »« Ah, bon, tout va bien. » Il a dit de nouveau « Marie. » Elle s'était soulevée de dessus sa chaise et disait « Que veux-tu, père ?» Lui, « C'était seulement pour savoir. » Il paraissait parfaitement heureux, l'air calme, les traits reposés. C'est le monde renversé. Tu es la grande personne, moi je suis le petit garçon. Mais toi tout près, veux-tu? C'est ça. Et puis, il faudra faire que ça dure, parce qu'on est tant bien ensemble, qu'il disait. Voilà qu'une lumière, pour lui aussi, était venue, et la guérison du cœur lui venait avant l'autre guérison. Et elle, qui se tenait là, dans le silence de la nuit, le considérant tour à tour, puis une image au dedans d'elle. Voilà que cette image, de plus en plus, avait pâli et s'effaçait. C'est fini, j'avais oublié. Elle croisa ses mains sur ses genoux. À peine si elle était un peu triste. Elle serrait ses épaules sous son châle, elle leva un petit peu ses mains. Je ne mettrai pas le ruban de noces. Je ne coudrai pas le ruban neuf à mon chapeau. Chapitre 4. Le dimanche 20, la journée passa. Et ce dimanche soir a commencé par l'embarquement des personnes qui étaient venues en visite chez des parents ou des amis et que le gros bateau emmenait en ce moment même, battant l'eau de ses deux roues peintes en rouge comme des pattes de canard. On poussait un soupir de soulagement. On se rasseyait à ses habitudes. Ces messieurs mettaient leurs pantoufles, se versaient un verre de vin. Ces dames... Heureusement que ce commerce-là ne recommence pas tous les jours. On ne garderait point de domestique. Grain ne parut chez des Costères qu'assez tard. Il avait lui aussi ses habitudes. Ses après-midi de dimanche, il les passait à dormir. Les personnages trop bien mis qui composaient de 2 à 7 heures ce jour-là la clientèle du café du port n'étaient pas pour l'attirer. Et il attendait que le bateau et les trains eussent remporté, comme il disait, cette marchandise. 9 heures avaient sonné depuis longtemps. Il avait trouvé ses amis attablés déjà, Bolomé, Lépidou, plusieurs autres. Est-ce parce qu'il se sentait de nouveau chez lui? Mais il paraissait tout content. Depuis 5 ou 6 jours, c'est-à-dire depuis le jour qu'il était tombé, il était de très bonne humeur. Chose étonnante. Il venait, il avait la tête enveloppée dans un bandage. Son grand plaisir était de l'ôter, ce bandage, et de vous montrer. Non que ce fût quelque chose de beau à voir, mais il y tenait. Et quand on lui disait « La plaie ne s'est pas encore refermée. »« Tant mieux, » répondait-il. Ainsi, ce soir-là, une fois de plus, et il avait fallu que Madame Descostères vînt et lui remît son bandage. C'était assez long, assez compliqué. Il fallait d'abord le faire passer au-dessous, puis au-dessus de l'oreille, et avoir soin de bien superposer les tours, sans quoi il n'aurait pas tenu. Même Madame Descostères avait dû aller chercher, pour finir, une épingle de nourrice. Et elle était revenue avec cette épingle de nourrice. Et les autres, en riant, « Doucement, vous allez le piquer. » Mais lui, « J'ai le cuir dur. » C'était une bonne soirée, qui avait bien commencé, et qui continua de même, jusqu'à assez tard. Point de discussion ni de chicane ce soir-là, comme trop souvent. On était entre amis, on causait avec amitié. On ne buvait pas beaucoup. La grosse lampe à pétrole éclairait doux, à cause d'une mèche pas levée haut, mais c'est qu'on n'attendait plus personne. Ils n'ont connu d'abord que la porte s'était ouverte qu'au bruit que fit le lac qui entra. Puis la porte fut refermée et le lac se tut de nouveau. Grain, justement, tenait un discours. Il se tut en même temps que le lac. Et les autres, s'étant retournés, s'étonnèrent grandement de voir qui était là. Depuis plus de 3 semaines qu'on ne l'avait aperçu nulle part, et même on racontait qu'il s'était mis de la tempérance. C'est ces sociétés où on prend l'engagement de ne plus boire, et on disait qu'il avait signé. Le Parisien n'avait salué personne, sa casquette lui cachait les yeux. Le silence a été si grand qu'il a semblé qu'il devenait quelque chose de matériel, quelque chose qui pouvait se voir et se toucher, ou si c'est seulement l'épaisseur de la fumée. Et l'autre s'enfonça dedans. L'autre alla s'asseoir dans un coin. Alors, c'est vraiment que tous s'étaient tournés vers lui, sauf Grain. L'explication qu'on attendait ne venait pas. Grain bourra sa pipe, l'alluma, tira une bouffée, puis ses yeux reprirent leur position. et il vint encore beaucoup de bouffées. C'est alors seulement qu'on vit, dans le coin où il se tenait, le Parisien se redresser un peu, regardant d'en dessous du côté de Grain, qui donc ne le regardait pas. On l'entendit dire quelque chose, mais on ne comprit pas ce qu'il disait. Ensuite, sa tête est retombée. Puis il recommença à regarder Grain, il recommença à dire quelque chose. Alors, on comprit, et c'était « Est-ce qu'elle a su ?» Question qui n'avait guère de sens, semble-t-il. Pourtant, elle devait en avoir un pour Grain, car il venait de se tourner vers celui qui l'avait posé. Et le Parisien avait donc posé sa question, mais il dut la poser une seconde fois. Alors, Grain s'était croisé les bras, et il a dit « Qui, ça ?» L'autre baissa la voix, il ne répondit pas directement. « Je vous demande si elle a su que j'ai été chez vous une fois, et c'est votre femme qui m'a reçue. Mais il faut maintenant que je sache si elle, elle a su, parce qu'il y a déjà 6 jours que je ne l'ai pas vue, et peut-être qu'elle est fâchée. » Mais Grain, d'une voix terrible, « Je te défends de parler d'elle, tu comprends ?» Et comme le Parisien le regardait toujours, « Ce qui m'étonne, c'est que tu oses. Oui, je dis bien que tu oses seulement. Pauvre ami, penses-tu qu'elle s'occupe de toi? Elle est bien trop au-dessus de ces choses, et tu sens bien trop petit d'où elle est pour que tu existes encore pour elle. Bien trop petit, pauvre ami, bien trop petit. » Grain aurait pu continuer longtemps. L'autre était tout à coup retombé, comme quand on ôte à une branche son support. De nouveau, sa figure avait été rejointe à ses mains. Puis, tout entier, il s'était abattu, les bras à plat sur la table. En vérité, il n'entendait plus rien. Il n'avait plus conscience de rien. Il ne se douta même pas, un instant après, que cet autre était entré, ce qui fut la seconde surprise de la soirée. Et Grain parlait encore quand elle poussa la porte. Cet autre qui entrait fit entrer aussi le lac avec elle. Et là-bas, également, une grosse voix rauque discourait dans la nuit. Il fallait d'abord qu'elle la fît taire, comme elle fit en refermant la porte. Alors, on remarqua que Grain s'était tu. Elle avait une blouse de mousseline à travers laquelle on voyait ses bras. Elle avait une blouse blanche et une jupe noire très étroite et collée aux hanches. Elle ne fit que jeter un regard à ceux qui étaient là. Comme elle se tournait de côté, on vit la brûlure de sa joue. Mais ce ne fut qu'un court instant, parce qu'elle s'était avancée. Et déjà, tout avait disparu pour elle, sauf celui qu'elle avait maintenant devant elle. « Louis, mon petit Louis !» Elle s'était mise à lui parler comme si personne n'eût été là. « Louis, écoute, je t'ai cherché partout. Est-ce que tu ne veux pas venir ? Dis que tu viens, s'il te plaît, réponds-moi. Parce que c'est moi, et je t'ai cherché, et je suis venue. Alors tu ne vas pas me laisser m'en retourner comme je suis venue, parce que je vois bien que tu ne peux pas rester seule. » Elle reprit. « Mais moi non plus, je ne peux pas. Dis, Louis, qu'est-ce que tu as ?» Elle lui prit le bras, elle se pencha sur lui, elle l'entourait toute. « Tu ne vas pas me faire ce chagrin !» Elle fut repoussée, elle n'ajouta rien. Elle non plus ne bougeait pas. Seules ses épaules bougeaient sous la blouse mince, rose à cette place. C'est ainsi qu'elle n'a pas remarqué tout de suite qu'il avait levé la tête, qu'il s'était mis à la regarder. Tout à coup, il a dit « Tu as raison ». Il lui parlait très doucement, et tout ensemble, avec une grande douceur et une grande pitié, « Approche-toi, donne-moi ta main. » Là-dessus, il recommença. « Tu le mérites bien. » Il se leva. Elle ne devait pas comprendre. Il s'était levé, il la tenait par la main. « Je sors avec toi, mais j'ai encore quelque chose à faire. » Là-dessus, il la lâcha. et là-dessus, il s'avança un peu. « Écoutez, Grain, peut-être que j'ai eu des torts envers vous. C'est sans le vouloir, je vous assure. Pourtant, je tenais à vous faire mes excuses. J'aimerais qu'on se quitte bons amis, voulez-vous ?» Grain demeura les bras croisés et il ne répondit pas un mot. « Vous ne voulez pas ? Eh bien alors, quoi qu'il arrive, dites-lui à elle. Dites-lui bien que je ne lui en ai pas voulu, que tout ce qu'elle a fait a été bien fait. » Il répéta, « Que tout ce qu'elle a fait a été bien fait. » Il dit encore, « Que ce n'est que justice, dites-le lui bien, n'est-ce pas ?» Il recommença, « Voulez-vous ?» Mais rien ne venait. Il se tourna vers la Brûlé, il l'avait prise de nouveau par la main. Ensuite il a ouvert la porte, et le lac entra brusquement avec une voix plus forte encore qu'avant, plus rauque. Puis le lac, une fois de plus, se tut. Le lendemain matin, ce lundi matin donc, par un petit temps gris, quand les frères Pidou voulurent mettre à l'eau leur bateau, ils virent qu'il n'était plus où ils l'avaient laissé la veille. La chaîne traînait sur les dalles, et tout à côté était le cadenas dont on avait coupé le tenon avec des cisailles. Presque au même instant, ils virent arriver Bolomé, le loueur de bateaux, qui leva un bras en les apercevant. On avait forcé sa cambuse. C'était le nom qu'il donnait à une espèce de grande caisse à toit de zinc où il logeait les accessoires dont on a besoin dans le métier. Et à lui, c'était une paire de rames qu'on avait volée. Alors, les trois hommes, d'abord, se sont tenus ensemble sur le quai, regardant au large, dans le gris de l'air, s'ils n'apercevraient pas peut-être le voleur. Puis, ne découvrant rien, ils sont allés tous les trois porter plainte. Bolomé jurait, l'air furieux. Les deux Pidou, eux, se taisaient, bien qu'ils fussent les plus atteints, n'ayant que ce bateau qui était toute leur fortune. Et ils ont donc été tous les trois porter plainte. Après quoi ils sont revenus et se tenaient de nouveau sur le quai où on venait les consoler. Mais ils ne se laissaient pas consoler. Les Pidou disaient « C'est bon pour Bolomé, lui n'a perdu que ses deux rames. Encore que c'était sa plus vieille paire, et toute pourrie. Nous, c'est le meilleur bateau qu'on ait jamais eu. » Et, changeant leur chic de joue, haussant les épaules, ils se détournaient, tandis que Bolomé continuait de jurer. Midi avait fini par sonner. Il semble assez qu'on ait téléphoné un peu partout, et même que la gendarmerie ait entrepris des recherches. Eussent-elles donné quelque chose? C'est une autre question. Ni les Pidou, ni Bolomé n'avaient l'air d'y compter beaucoup. Ces gendarmes, voyez-vous, sont payés, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est nourri, logé, habillé, chauffé. Le reste, ils s'en moquent pas mal. Faisons notre police nous-mêmes. « Votre bateau, disait-on au Pidou, à votre place, j'irai le chercher en Savoie. Jamais ces bougres-là n'en achètent un, c'est connu, ils viennent se servir chez nous. Facile à eux, la nuit, de passer l'eau. Même qu'on peut dire qu'il y a du choix, et ils s'y connaissent. » On riait, et déjà un autre avait repris. « Mais ta vie, à moi, que le voyage serait inutile, l'ennuyeux avec ces bateaux. C'est qu'ils changent de tenue aussi facilement qu'une jolie femme. Un pot de couleur, un pinceau, et bien malin qui s'y reconnaîtrait. » Un petit vent s'était levé, car rarement le lac était calme. Là où c'est le royaume de l'eau, c'est aussi le règne des courants d'air, qui s'y promènent en liberté, comme un troupeau dans un pré sans clôture. Vaudère, Joran, Séchard, Molène, ils ont tous les noms, ces vents. Ils viennent de tous les côtés, à l'est comme à l'ouest, et au nord comme au sud. Il y a autant de bouches qui s'ouvrent, comme quand un enfant fait, sur un baquet, flotter un bateau de papier. Et tantôt le lac fuit latéralement devant vous, semblable à un immense fleuve, tantôt il est à portée, tantôt il est emporté. Ce jour-là, il était à portée. parce que c'était le vent du sud qui soufflait. Il avait verdi par places, noirci à d'autres. Il était tout marbré, tout acheté. Il n'était pas beau à voir. Et avec un claquement sec, les vagues venaient, de plus en plus hautes, formant des remous où tournaient des débris de bois, de la mousse, des feuilles mortes, des poissons crevés, des bouchons. Les rires allaient d'un tel train qu'on n'a rien vu dans le commencement. Quand la chose est sortie de derrière la pointe de la ciblerie, personne d'abord n'y fit attention. Il y eut ce premier bateau, puis il y a eu ce second, qui avait été pris en remorque par l'autre. Tous deux eurent encore le temps de virer avant que Décoster, le premier, les eût aperçus. Mais alors, il a ouvert la bouche toute grande. Et comme on se tournait vers où lui-même s'était tourné, « Pas possible !» disait-on. Et au Pidou, « Vous en avez de la chance !» En effet, le second des deux bateaux était le bateau des Pidou, comme on le distinguait maintenant sans peine à sa peinture, n'étant pas à plus de 100 mètres. Et tous s'avancèrent sur le bord du quai, s'abritant les yeux de la main. Ils ne reconnurent pas tout de suite les deux hommes qui étaient aux rames et qui se présentaient de dos. Il fallut que les deux hommes se retournassent, comme ils faisaient de temps en temps. On vit alors que le plus grand était un nommé Marsan, pêcheur à rive dessous. On cria « Hé, là-bas !» Marsan lâcha ses rames. Il montra l'autre bateau. Et qu'est-ce qu'il y eut alors? Mais tous se turent. 3 heures sonnaient justement. Les enfants sortaient de l'école. La grande porte, une fois ouverte, ils s'étaient poussés dehors tous ensemble, comme quand, avec une baguette, on chasse la moelle d'un jet de sureau. Ils se mirent à courir. Des femmes couraient derrière eux. Les gens des boutiques couraient, le charpentier, le forgeron, le plâtrier entrepreneur, qui était un Italien du Tessin, l'agent de police fermait la marche. Il secouait la tête, il disait « Ça devait finir comme ça ». Il attrapait les gamins par le bras. « Sauvez-vous, vous n'avez rien à faire par ici ». Et aux grandes personnes « Voyons, qu'est-ce que c'est que ces manières, comme si c'était déjà quelque chose de tant beau à voir ». On vit sa haute casquette de drap gris, de fer, à liseré rouge, se faufiler entre les chapeaux mous, ses autres casquettes à carreaux, les chapeaux de paille, les têtes des femmes à petits chignons de bois dur. Puis, arrivée à un espace vide au bord de l'eau, là, elle se pencha, elle disparut. Et c'est là que Marsan et son aide avaient abordé. Là, ils avaient tiré le second bateau sur la rive. Ils avaient soulevé la bâche qui le couvrait. Alors, cet autre s'est montré. Mais, bien qu'il eût les yeux ouverts, toute lumière pour lui était à jamais éteinte, et la belle forme des choses à jamais défaite pour lui. Il ne bougeait plus, il ne voyait plus, il n'entendait plus, pas même l'histoire qu'à présent Marsan racontait. Ça a dû se passer au large, et c'est le vent qui a ramené le bateau. On a été voir, il était vide. Seulement, avant de se jeter à l'eau, le particulier s'était attaché la corde autour de la cheville. Drôle d'idée. Ou bien, si c'est qu'il a voulu qu'on le retrouve, disait Marsan. Mais l'autre n'a pas entendu. Si indifférent à tout maintenant, si parfaitement immobile, couché qu'il était sur le dos, la face tournée vers le ciel, dont seul il affrontait l'éclat. Les messieurs de la justice, à cet instant, arrivèrent, accompagnés de 2 gendarmes, qui commencèrent à faire circuler. Tous ceux qui n'avaient rien à faire là, comme disait l'agent de police, furent refoulés sans ménagement. Et c'est beaucoup plus en arrière que les groupes se sont reformés, considérant de loin les opérations de la justice. Mais pendant ce temps, la nouvelle allait, et déjà par toute la ville elle s'était répandue, car rien n'a des jambes comme les nouvelles. La sonnette qui pendait à la porte de l'épicerie du port se mit à sonner. Madame Duport leva la tête, appelant la locataire du premier. « Vous ne savez pas ?» La nouvelle court, heurtant aux portes, montant les escaliers, suivant cette première rue d'un bout à l'autre, cette deuxième, cette troisième, elle arrive sur la route. Là se trouve la petite maison de la garde-barrière. La garde-barrière tourne sa manivelle, voilà la barrière qui descend, tintant de toutes ses tringles de fer assujetties seulement dans le haut. Et la nouvelle trépigne d'attendre, en même temps que deux automobiles, un monsieur à bicyclette, une petite fille qui porte un panier couvert d'un linge. Pendant que la garde-barrière se fâche, « C'est bien fait, il ne méritait pas mieux. » Et ainsi la nouvelle allait, mais il y avait maintenant sur la place cette autre chose qui allait. Il y eut sous le grand ciel blanc les quatre hommes ployant sous leur charge, deux à la tête, deux aux pieds. Derrière eux, dans la poussière, le mince trait noir d'un filet d'eau se déroulait, comme une ficelle qui aurait traîné. Les porteurs gagnèrent la rue de l'Hôtel de Ville. Tout un cortège les suivait. Vainement, les gendarmes avaient-ils essayé de retenir la foule. Elle s'engouffra dans la rue. Certaines personnes aussi, étant entrées par l'autre bout, ne rencontrèrent aucun obstacle, et elles descendaient à la rencontre de celui qui était porté. L'affaire seulement fut que tout le monde faisait silence, en sorte qu'on entendit mieux le seul qui ne s'était pas tu, qui parlait tout haut au contraire, descendant la rue à son tour. « Vous voulez me faire croire ça, vous ? Pas si bête. Quand je vous dis qu'hier soir encore on était ensemble, et même qu'il voulait se réconcilier avec moi, et c'est moi qui n'ai pas voulu. Mais depuis, j'ai changé d'idée. » Ainsi parlait celui qui venait. « Farceur ! Va-t-on se jeter à l'eau comme ça, quand on ne fait que commencer ? Et même qu'il recommençait, autant que j'ai pu voir. Alors double raison, je dis. » On disait, « Faites-le taire !» Les porteurs approchaient, et c'est alors qu'il reprit, « D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. » On essaya de le retenir, mais la manche de sa blouse était mûre, l'étoffe céda. Il a regardé, il ne bougeait plus, il ne disait plus rien. On fut obligé de le tirer de côté. Les porteurs passèrent, et le corps, puis ces messieurs de la justice. La foule survint derrière eux. Il fut pris dedans, il tournait dedans. Et quand la foule se fut écoulée, il continua d'être là, qui d'ailleurs fut vite écoulé. Il avait les jambes écartées, il balançait la tête lentement, les mains derrière le dos. Ensuite, il s'est passé deux ou trois fois la main sur les yeux et de haut en bas sur toute la figure. Il fit un pas, il fit deux pas, il s'arrête de nouveau. Déjà la rue s'était vidée. Personne ne le vit, ou du moins ne faisait attention à lui. Personne non plus n'entendit ce qu'il disait, encore qu'il parlât tout haut de nouveau. Suite à ses réflexions, ces choses qu'il disait tout haut, parce que les pensées, à la longue, prennent tant de force en nous qu'on ne peut plus les empêcher de sortir. Ainsi, le long de cette première rue, le long de cette seconde rue, et son discours s'avançait avec lui. « Ils ont menti, je vous dis qu'ils ont menti !»« Que non, ils n'ont pas menti !» Arrêt ici encore, puis il secoue la tête. « Pauvre ami !» Pauvre ami, quand même, le seul ami que j'ai jamais eu. Là-dessus, nouvel arrêt, ayant besoin sans doute d'approfondir, et il descendait d'étage en étage. Il arriva à l'étage plus bas, alors il se donna un coup de poing dans la poitrine. « C'est bien fait, Jules, c'est ta faute. Tu aurais dû le retenir, au lieu de quoi tu t'es fâché. Tu l'as découragé au lieu de l'encourager. » Tu as retiré ta main au lieu de la lui tendre. Tu as été orgueilleux, Jules. Tu es puni. » Puis, « Tonnerre de femme !» Et levant le poing, « Tonnerre !» Et puis la colère qui s'en va, et il fut seulement très triste. « Plus personne, mon pauvre Jules. Tout te quitte. » Et une seconde fois, « Tout. » Mais il s'était arrêté encore, comme un à qui une idée est venue. Et puis, tant bien que mal, il s'est mis à courir droit devant lui. Il a vu qu'il y avait du monde devant sa maison, comme une fois déjà quand il était tombé. Seulement, cette fois, c'est elle qui était tombée, et on venait de la monter. On le lui a dit. On disait aussi « Elle n'a pas une bonne santé, elle doit être anémique. » Alors les femmes « Pauvre Élise !» Et elles s'écartèrent pour le laisser passer. Alors il se tourna vers elles, comme pour leur demander quelque chose. Elles reculèrent encore, il ne leur demanda rien. Elles se rapprochèrent de la porte, écoutant ce pas monter l'escalier. Elles disaient « Il est de nouveau saoul !»« Il l'est tout le temps !» Et une qui s'était mise à rire « Ce qu'il va être bien reçu là-haut !» Mais trois ou quatre autres à la fois « Et puis quoi, ça lui viendra bien. Des hommes comme ça, il faudrait leur tordre le cou. » On l'avait couchée sur son lit, et depuis qu'on l'avait couchée, elle n'avait plus fait un mouvement. Les femmes lui avaient appliqué des compresses d'eau fraîche sur le front jusqu'au moment où elle avait rouvert les yeux. Alors elles avaient dit « La voilà qui revient !» Et elles avaient été lui faire de la camomille. Marie resta seule dans la chambre, elle avait refermé les yeux. Les femmes, elles n'étaient plus que deux, Madame Grain et une voisine, s'empressaient autour du fourneau dans la cuisine. L'eau dans le coquemar commençait à chanter. C'est alors qu'on a entendu ce pas dans l'escalier. La voisine leva la tête. « On monte !» Madame Grain la regarda, sa figure prit un air dur. Elle dit « Je sais qui c'est, laissez-moi faire. » Il semble assez qu'on ait eu de la peine, mais c'est que le loquet ne devait pas se trouver facilement, vu qu'il ne faisait pas trop clair sur le palier. La main tâtonna un instant encore contre le panneau. Il y eut ensuite un coup sec qui fit tressaillir les deux femmes. Et cette fois, on n'hésitait plus. La porte, violemment poussée, a été battre contre le mur. Les deux femmes se retournèrent. Madame Grain ne dit rien. La voisine, rien non plus. On était entrés. On commença. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voisine, la première, retrouva sa voix. Elle dit « Voilà, c'est qu'elle est tombée. »«
Tombée ?
Où ça, tombée ?»«
Devant la maison. »
Grain fit un pas dans sa direction, comme s'il allait lui sauter dessus. Elle fit un pas en arrière. Mais lui, bien qu'il la regardât, c'était comme s'il ne l'avait pas vue, comme s'il avait regardé tout au travers d'elle le mur. Et il fut ainsi un instant. Puis tout à coup, il s'avança, gagnant la porte de la chambre. Madame Grain s'était précipitée.
« Jules, Jules, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !»
Elle se mit à courir, elle arriva trop tard. La porte s'était ouverte, la porte s'était refermée. Pour lui, il s'était approché du lit. Il voyait que Marie avait les yeux fermés. Au bruit qu'il fit en s'approchant, il pensait qu'elle les ouvrirait. Elle ne les ouvrit pas. Et il demeura tout près du lit. Et cette absence de tout bruit qu'il y eut, contrairement à ce qu'on attendait. Puis gravement, et si bas qu'il n'y eut pas davantage de bruit hors de la pièce.
« Qu'est-ce qu'il y a, Marie ?»
Elle gardait les yeux fermés. Elle ne fit pas un geste. Elle n'eut même pas un battement de paupières. Pourtant, on devinait qu'elle avait entendu. Et lui, donc,
« Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
De nouveau, toujours cette voix sourde.
« Pourquoi ne réponds-tu rien, Marie ? C'est Grain !» « Jules Grain, c'est ton père !»
Il disait encore,
« Justement, j'avais besoin de toi. J'ai du chagrin, vois-tu. C'est un bon ami que je perds. Et je suis venu parce que toi, au moins, tu me restes. Et voilà que tu ne veux pas m'écouter. »
Elle déplaça un peu ses mains. Elle continuait de se taire.
« Dis-moi, Marie, est-ce que c'est exprès ou bien si c'est que tu ne peux pas ?»
Il posa encore cette question. On doit dire qu'il fut patient. C'est seulement après qu'il eut longuement attendu et patienté que l'irritation se fit jour en lui.
« toi aussi, tout le monde qui m'abandonne. »
Il reprenait.
« Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, parle. Est-ce que je peux savoir, moi ?»
Comme quelqu'un qui commencerait à avoir des doutes, mais ne voudrait pas y céder. On entendait maintenant sa voix de la cuisine, et distinctement ensuite on comprit.
« Ah, c'est comme ça. Eh bien, je m'en vais. Tu suis l'exemple de ta mère, je te laisse libre, mais je reprends ma liberté. »
Il criait maintenant. « Et elle, est-ce qu'elle va répondre ?» Non, elle ne répondra pas. Laissons seulement venir l'injustice. Elle glisse sur nous comme la pluie sur le toit. On entendit le bruit d'une chaise qui tombait. La porte s'ouvrit.
Toutes les mêmes ! Toutes les mêmes ! Heureusement que j'ai l'habitude d'être seule.
À ce moment, il a aperçu sa femme. Sa colère se tourna contre elle.
Ah, te voilà, toi ! Te voilà ! Attends seulement !
Mais il n'alla pas plus loin, les idées étant dans sa tête comme une girouette au vent. Et tout en descendant l'escalier, il chantait de toutes ses forces la chanson qu'on connaît déjà.
« Il y aura la fille à Jacques, la fille à Pierre, la fille à Jean, et Frédéric qui est sergent, et Paul qui le sera à Pâques. »
Chapitre 5. Le médecin avait dit « C'est une hérédité chargée ». L'explication parut d'autant meilleure qu'on n'en saisissait pas très bien le sens. On sut que Marie ne pouvait pas se lever, bien qu'elle n'eût, disait-on, aucun organe atteint. Et la conclusion était « ça doit être de l'hystérie ». Puis, parce qu'il y a dans la vérité une force d'expansion qui fait que, comme la graine qui germe, elle finit toujours par percer quand même, ainsi vint vaguement enfin une histoire d'amourette, et que c'était à cause de Marie que le Parisien s'était noyé. On y croyait pourtant qu'à demi.
Pas possible, un individu pareil, aussi ivrogne que Grain lui-même. Et elle, laide comme elle est, y songez-vous?
Le notaire Boll disait « Il n'y a guère parmi tous ces gens-là que Madame Grain qui soit à plaindre. »
Monsieur Guicherat, « Qui se ressemble, ça semble. »
L'épicier du port concluait « Je peux faire mon deuil de la note. » Et la chose alla de telle façon que les demoiselles Chapuis furent à peu près les seules, pour finir, à s'intéresser encore à Marie. Mais elle, c'était au point qu'elle n'en dormait plus.
Si on allait la voir.
Justement, il reste un pot de gelée de coin.
Mais on risque d'être mal reçu.
Il faudrait savoir s'expliquer. Saurais-tu?
Non, mais toi, tu saurais peut-être.
Elle n'avait pas osé. Voilà la grande carte de géographie, où on montre à nos écoliers les cinq parties du monde. Cette espèce de grosse rave, c'est l'Afrique. L'Australie est comme une pomme de terre. Et pendant que la baguette allait et venait sur la carte coloriée, 15 paires de petits yeux la suivant avec attention. « Pauvres enfants, se disait-elle, qu'ils soient heureux pendant qu'ils peuvent, ils sauront toujours assez tôt ce que c'est que de vivre et la peine qu'on y a. » Alors, des pots de fleurs où étaient des jacinthes, distillant une sorte de miel qui brillait comme de la poudre d'argent, une abeille s'est envolée. Les poissons sautaient hors de l'eau. Des hommes debout dans un bateau levaient une perche en l'air. Grain n'avait rien changé à ses habitudes, sauf qu'il s'était remis à travailler. Comme on était dans le moment de l'année où les vignes donnent le plus à faire, il n'avait pas eu de peine à trouver de l'ouvrage. Toute cette première semaine, il fut dans les vignes, du matin au soir. On commençait les sulfatages. On met un vieux pantalon de toile, une blouse, et ils ont l'air masqués, avec une figure verte, les mains vertes, tout le devant du corps vert. Rien que le dos qui ne le soit pas. Ils montent de muret en muret par les escaliers branlants, où déjà le soleil vous échauffe la nuque. Ils vont et viennent entre les cèpes,
faisant marcher à petits coups la poignée à bascule du pulvérisateur. Et voilà le pays tout entier qui devient vert, lui aussi. D'un vert mis par-dessus l'autre, non plus le vert lustré et franc des feuilles, mais un vert plus clair, mat, un vert poussiéreux qui est bleu, un vert minéral et pas vrai. Et de l'intérieur de la terre, après le beau vivant qu'élabore la sève aux sollicitations de l'air. Donc, Grain allait avec les autres, ayant la hotte de fer sur le dos. Il partait de chez lui à 5 heures du matin, il ne rentrait que tard dans la soirée. Tout ce verre de gris qu'on avale donne soif. Sa journée finie, il allait boire. Il couchait sur un matelas dans la cuisine. Il ne voyait plus sa femme ni sa fille. Madame Grain ne s'en plaignait pas. L'essentiel était pour elle qu'il la gênât le moins possible. Et quant au reste, alors, et quant à ce qu'il pouvait faire hors de chez lui, elle ne s'en occupait plus depuis longtemps. Moins il était là, mieux ça valait. « Ça tombe bien, disait-elle, avec Marie qui est au lit, quoiqu'il n'y ait personne de plus facile qu'elle. Seulement, c'est quand même un surcroît de peine. » La chambre était une chambre de 3 mètres sur 2, à peu près, où il n'y avait qu'une couchette de fer et une table de sapin, servant de table de toilette. Elle faisait en sorte de bouger le moins possible, parce qu'il est inutile de bouger. Une fois pour toutes, elle avait croisé ses mains l'une pour l'autre. Voilà la position des mains. Et le corps est à plat. Les jambes sont rapprochées. On lui avait apporté un second oreiller. Ainsi, elle pouvait, par-dessus les dredons, la grosse bosse qu'il faisait et son enflure, apercevoir un petit morceau de ciel et les toits. C'est ces toits qu'elle regardait tout le long du jour, et le ciel au-dessus des toits. Au-dessus d'une couleur fixe, la plus changeante, la plus incertaine des couleurs. Point de changement, ou trop, tout le temps. En bas, quelque chose d'immobile. En haut, quelque chose de toujours en mouvement. Et dans le bas de la fenêtre, Marie connaissait la place de chaque tuile et les taches qu'elle faisait, telles comme de la croûte de pain trop cuite, telles grisâtres, délavées, certaines jaunes, d'autres d'un rouge vif. Mais la partie d'en haut, jamais on ne pouvait savoir. Là était l'inconnu, apporté par un coup de vent, emporté de la même façon. Tantôt les yeux y flottaient sur une douce profondeur bleue, tantôt ils se heurtaient comme à un amoncellement de rocs, puis la construction s'écroulait. Et il n'y avait plus qu'un frottis gris et lisse, comme de la peinture à l'huile, ou bien comme une mousseline, et on pouvait voir au travers. Un grand silence pendant ce temps dans la maison. Une toute petite vie y battait, comme un vieux cœur fatigué. Et il faut appliquer l'oreille dessus pour savoir s'il fonctionne encore. Rien que ce pas étouffé qui va et vient, le heurt d'un balai contre la paroi, une voisine entrant sur la pointe des pieds dans la cuisine et qui chuchotait quelque chose. Des fois aussi, la porte de la chambre s'entr'ouvrait. Mais Madame Grain, tout bas, « Elle dort, laissons-la, c'est sa maladie de dormir. » Et les deux femmes s'en allaient comme elles étaient venues. « C'est ma maladie de dormir. Ah, si seulement c'était vrai. Mais c'est juste le contraire. Ma maladie est de ne pouvoir jamais dormir. Ma maladie est de devoir penser sans cesse aux mêmes choses, et elles me détruisent en dedans. » Elle tentait de se soulever sur son lit. Elle retombait tout de suite. Il s'était remis à passer des nuages au-dessus de l'arête nette des toits où des plaques de fer blanc rouge vif étaient clouées. Aux heures des repas, Madame Grain entrait. Elle disait « Marie, qu'est-ce que tu veux prendre ?»« Je n'ai pas faim. »« Qu'est-ce que tu as ?»« Je n'ai rien. »« Où as-tu mal ?»« Nulle part. » Alors Madame Grain, avec un gros soupir, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour être tourmentée pareillement ? Jamais un moment de repos, jamais un bonheur, jamais un plaisir. S'il te plaît, maman.
Non, c'est comme ça.
Et se reprenant, je ne dis pas ça pour toi. Toi, ce n'est pas ta faute. Toi aussi, tu es punie.
Mais de quoi est-ce qu'on est punis toutes les deux, veux-tu me le dire? Et n'est-ce pas injuste que ce soit nous et pas lui?
Elle secouait la tête plusieurs fois avec violence, restait un moment immobile, puis brusquement se détournait. On en vint ainsi au 15e jour à peu près. Et voilà que Grain ne travaillait plus. On l'avait vu arriver encore le lundi matin, et jamais il n'avait travaillé comme ce jour-là. Le lendemain, plus personne. Surprise! Son patron comptait sur lui. Mais les autres ouvriers, avec un haussement d'épaule, « Nous, on s'y attendait. Ça ne pouvait pas durer. Il y allait trop fort. » Il ne reparut pas dans les vignes. Où on le rencontre, ce fut sur la route, à ce que certains racontèrent. Il racontait aussi qu'il parlait tout seul. C'est entre deux murs, c'est contre le mont, c'est au pied de cette haute construction faite de main d'homme qu'est le mont. Le mont d'un côté et le lac de l'autre. Il allait sur la route, il parlait tout seul. Et ceux qu'il avait rencontrés lui avaient souhaité le bonjour, mais il ne leur avait rien répondu. D'autres, dont les frères Pidou, racontèrent qu'ils l'avaient vu assis au bord de l'eau sur une grosse pierre, et à un endroit où il n'est pas facile d'arriver, parce qu'aucun chemin n'y mène. Et à droite et à gauche, les murs tombent à pic dans le lac. « Assis là, » disait-il. Les pieds quasi dans le mouillé, comme un qui pêcherait à la ligne, regardant fixement devant lui le bouchon. Mais point de ligne, point de bouchon. Comme un qui pêcherait et qui ne serait pas content parce que ça ne mordrait pas. Mais vous savez la race que c'est, ces pêcheurs, et l'entêtement qu'ils y mettent. Comme un qui pêcherait à la ligne, et il ne bougeait pas plus que la pierre sur laquelle il était assis. Il semble assez que ces derniers jours, il ait été partout à la fois. En haut du mont, en bas du mont, sur la pente du mont, derrière le mont, partout où il y avait des chemins, et même là où il n'y en avait pas. Est-ce parce qu'une grosse bise soufflait? Il était comme une feuille morte dans la bise. Il allait droit devant lui, cédant à une force dont on ne pouvait savoir si elle était du dehors ou du dedans, mais lui-même ne comptait plus. Et il y avait cette grosse bise. On le vit dans tous les villages des environs. Il ne s'arrêtait nulle part, il ne parlait à personne. Il semble qu'il n'ait pas eu un instant de repos ces jours-là, évitant les lieux habités. On ne l'apercevait jamais que de loin, marchant à grande allure, la tête basse, le corps en avant. Pourtant, quand la nuit était venue, si on avait pu le surveiller encore, mais peut-être était-ce justement parce qu'on ne pouvait plus le surveiller. On l'aurait vu revenir sur ses pas, avec lenteur, avec hésitation, avec toujours plus de lenteur et toujours plus d'hésitation, il défaisait le soir le chemin fait dans la journée. La première fois, il s'était arrêté avant d'être arrivé à la ville. La seconde fois, il poussa jusqu'à l'entrée de la rue. Et ce fut seulement le 4e soir. Il se trouva que ce soir-là, Madame Grain était sortie. Peut-être Grain l'avait-il vue sortir. Pour lui, il ne fit aucun bruit. Il monta l'escalier, la porte fut entr'ouverte. Marie n'avait rien entendu, elle ne tourna pas la tête. Ainsi la porte s'est ouverte un peu plus. Et c'est alors qu'elle le vit, ou du moins elle crut le voir, qui d'abord ne fit pas le moindre mouvement. Puis il a ôté son chapeau. Puis, comme s'il eût été chassé de nouveau, comme si le vent eût repris, cette grosse bise qui souffle, il fit demi-tour sur lui-même. « Père !» Elle voulut appeler, elle n'en eut pas la force. D'ailleurs, il n'était déjà plus là. C'était même à se demander s'il avait jamais été là. Encore que ce fût bien lui, ou du moins quelqu'un à sa ressemblance, les cheveux en désordre, la barbe parasée, le visage ruiné, défait, mais en même temps comme refait à cause d'une expression nouvelle.
« Père !»
Elle voulut appeler. Elle n'a pas pu. Elle cherche encore à se soulever. Elle ne peut soulever que sa tête. Et une affreuse tristesse lui venait. Cette nuit-là, Grain but tellement et fit tant de scandale qu'il fut jeté hors du café par des costères. Alors il dut rôder le reste de la nuit. Et elle, cette même nuit, ne dormit point. Et tous deux s'avançaient ainsi, sans s'en douter, à la rencontre l'un de l'autre. Lui rôda toute la nuit. Elle, elle ne dormit point de toute la nuit. Une nouvelle journée passa, vint le soir. Sa mère s'était approchée de son lit avec une tasse de lait. Marie secoua la tête.
« Mon Dieu !» dit Madame Grain. « Mais tu vas perdre toutes tes forces. Et quelle mine tu as déjà !»
Elle sortit. Une mauvaise lampe de cuisine, posée à côté de Marie, éclairait Marie. Comme quand on était apprenti, déjà ces lampes à pétrole, déjà sur nos visages, tant de fatigue et de pâleur. Mais c'était à présent bien plus que de la fatigue, bien plus que de la pâleur. Madame Grain s'était mise à pleurer dans la cuisine. On a pleuré encore un petit peu dans la cuisine, puis tout se tut. La lampe avait fini par s'éteindre. Marie put ouvrir les yeux. Ses yeux ne la gênaient plus. Ce fut comme avec d'autres yeux à présent qu'elle voyait. Ce fut comme avec ses vrais yeux qu'elle voyait. Et ce qu'elle voyait, c'était le café éclairé, avec, dans les tonneaux peints en vert et blanc, des lauriers roses. Ce premier soir-là, il était sorti. Il lui disait « C'est votre père que vous cherchez? Laissez-le tranquille, il n'a plus sa tête. » Il parlait avec beaucoup de douceur, et ça avait été cette première fois, puis il y avait eu cette seconde fois. Une lune en papier de soie était au ciel, et il y avait dans l'eau toutes ces étoiles tombées. Ils s'étaient avancés ensemble, et si elle avait seulement permis, ils auraient continué de s'avancer ensemble toute leur vie. Si seulement elle avait cousu le ruban à son chapeau, en signe de permission, un bras aurait été passé sous le sien, pour toujours. Je marche dans la vie sans crainte de m'égarer. Chantons dans notre petit ménage. Voilà qu'il m'a été donné. On ne me le reprendra plus. J'ai frotté la casserole. Elle brille à son clou comme une belle montre d'or. Elle avait un peu mal au cœur. Mais il en est toujours ainsi, dit-on, les premiers mois. Le carreau brille, la table est mise. Il y avait même dans un petit vase un bouquet de primes verts, pour dire que c'est le printemps. Ils sortiront après le dîner. Il y aura au bout des branches ces espèces de papillons qui semblent prêts à s'envoler, et qui ne s'envolent jamais. Elle voyait tellement bien comment tout aurait été, jusqu'à la petite bête à bon Dieu qui est venue se poser sur sa main, et on lui chante la chanson. « Père Nette vole, il fera beau temps demain. » Car il fera beau temps demain. Il fera beau temps toute notre vie. Et je chante. Et il me prend ma chanson sur la bouche. Mais même ainsi, elle n'est pas perdue. Rien n'est perdu quand tout est bonheur. Tant de choses sont en nous qu'on ne savait pas. C'est comme des nouveaux yeux. C'est comme un plus grand cœur qu'on a. Tout apparaît neuf. Jamais vu. Jamais vu ces arbres, cette voûte rose. Et comme jamais respiré cet air du soir qui sent bon. Ils rentreront, on ira dormir. Il me fera le petit creux que j'aime, je blottirai ma tête dedans. Oh, touche-moi seulement, mon ami, touche-moi toute, parce qu'à présent j'ai permis. » Elle fit un mouvement, comme pour se serrer plus étroitement contre lui. Le lit craqua, il n'y avait personne. Au lieu du ciel rose et des arbres, elle vit venir à elle un des murs, puis l'autre, avec leurs pauvres petits papiers à fleurs. Un coin de la vieille commode, à laquelle il manquait un pied, se montra ensuite. Elle a connu que c'était un rêve qu'elle avait fait. et les rêves sont du brouillard, des nuages, de la fumée, au lieu que la réalité est comme un bloc de pierre où on a taillé à coups de ciseaux. Quelle heure? Est-ce que le temps existe seulement encore? La fièvre lui brûlait les mains, elle les mit sur le drap pour les rafraîchir. Ses lèvres étaient sèches l'une contre l'autre. Un petit marteau battait à ses tempes. Est-ce du plomb, cet édredon, sur moi, ou déjà l'épaisseur des mottes? Puis, le plus douloureux de tout, dans un dernier élancement qu'il a parcouru tout entière, c'est pourtant moi qui l'ai voulu. Et cela, elle se le dit à haute voix. Elle se le répétait, elle se le criait, elle se criait « C'est moi, parce que je n'ai pas permis !» Alors elle se rejeta en arrière, comme devant quelque chose de trop horrible à voir. Ah, si seulement on pouvait défaire ce qu'on a fait, si on pouvait revenir sur ses pas jusqu'à l'endroit où le chemin bifurque. Et un violent mouvement encore, un inutile raidissement de tout le corps. Il faut bien finir par y voir clair. Il faut voir qu'on n'a pas permis. Elle n'avait pas permis. C'est pourquoi sa tête pendait. Il y avait de l'eau dans ses cheveux, il y avait de l'eau dans ses oreilles et dans sa bouche. Ils le soulevèrent, ils ont de la peine. Oh, doucement, doucement, à cause de moi. Oh, s'il vous plaît, est-ce que vous ne voyez pas aussi que sa main traîne? Brusquement, elle s'était assise. Ses yeux étaient grands ouverts. « Je ne veux pas. Ça n'est pas vrai. Ce n'était pas dans ce temps-là la vraie Marie. À présent, c'est la vraie. Elle crie, elle appelle. Dis, toi aussi, que tout ça n'est pas vrai. Et puis tu viendras me chercher. Vite, vite !» Elle l'appelle. Encore ce dernier essai. Elle écoutait. Rien n'est venu. Elle a attendu encore. Elle écoutait de toutes ses forces. Rien d'autre que le bruit d'une souris roulant une noix, ou il semblait qu'elle roulât une noix dans le grenier. Elle mit sa tête dans ses mains, et doucement, comme une petite fille qui berce sa poupée, elle la balançait de droite et de gauche, avec une plainte très douce, une plainte comme une chanson. Mais de plus en plus, ses doigts s'enfonçaient. Elle prit sa peau à deux mains, elle se déchirait le visage. Puis ses doigts gagnèrent son cou et, ayant rencontré la toile de la chemise, tirait dessus comme pour l'arracher. La toile résistait, ses mains retombèrent, elle secoua par trois fois la tête. Puis ce fut un tout petit bruit, comme quand une fontaine se met à couler. Par saccades, avec des silences, des moments d'arrêt, de brusques reprises. Et silence partout, pendant ce temps, sous le ciel, sous le mont, sur les eaux, la ville endormie. C'est que tout dort. Qui entendrait? Et qui entendrait que cela peu à peu se meurt, cela cesse, parce qu'à présent l'aube vient. Et il y a ce visage tourné vers la fenêtre où l'aube vient. Personne ne fut là pour entendre. Personne non plus ne fut là pour voir quelle lumière ce fut sur elle. Et son visage s'éclairait comme faisait le ciel à ce même moment. Mais quand un peu plus tard Madame Grain entra, elle a crié « Elle est guérie !» La porte de l'appartement s'ouvrit, il venait très vite, le même grand vent le poussait toujours. Seulement, lorsqu'il fut arrivé près du lit, comme si le grand vent eût cessé de souffler, il s'arrêta. Il se mit à pencher. « Pardon !» commença-t-il. « Pardon !» Il penchait de plus en plus. « Je n'avais pas compris. Il m'a fallu du temps. »